Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et vous écoutez le magazine du midi de Fréquence Mistral. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éric Savoldelli, dessinateur et auteur de bandes dessinées originaire des Hautes-Alpes. Il a co-signé Ligne de vie en 2021 avec André Vianney-Espinas, publié aux éditions... Étage édition. Donc, comme l'annonçait Anaïk dans la chronique littéraire de la librairie Voyage au bout des livres, on retrouve Éric Savoldelli ce week-end à l'Argentière-l'Abaissée pour le premier festival Carnet de Voyage, les 11, 12 et 13 juillet. On en reparlera plus tard avec vous. Mais avant tout, d'où venez-vous, Éric Savoldelli ? Votre histoire à vous, quelle est-elle ?
Eh bien, moi, je viens de Monnetier-les-Bains. J'ai grandi dans cette vallée et j'ai fait mon collège, mon lycée à Briançon. Et je rêvais, étant fils de gardienne de refuge et d'un bûcheron, j'étais plus orienté vers la haute montagne et je voulais être guide avant. Et bizarrement, à 17 ans, je suis un peu tombé par hasard dans le dessin. J'ai commencé à prendre des cours du soir jusqu'à rentrer dans une prépa d'art d'abord, puis aux Beaux-Arts de Grenoble. Et puis finalement, le schéma classique des études ne me plaisait pas, donc j'ai quitté les études assez vite pour me lancer en tant que dessinateur et... Pour le moment, je ne regrette pas.
Et qu'est-ce qui a fait la transition vers les cours de dessin du soir ? Qu'est-ce qui a donné cette envie ?
C'est une lecture. C'est qu'en fait, à 17 ans, un jour, je me retrouve dans le refuge du Glacier Blanc. Il fait mauvais et je n'ai pas grand-chose à faire. Et un guide me dit « Tu devrais lire Elle froide, c'est une BD de Jean-Marc Rochette, ça vient de sortir, ça devrait t'intéresser. » Et en descendant, je suis allé l'acheter, je l'ai lu directement et... ça fait un espèce de choc. C'est donc le récit d'un récit autobiographique où il raconte que quand il était jeune, il voulait devenir guide. Et voilà, j'en trouvais beaucoup de choses qui me faisaient penser à ma propre histoire, quoi. Et ça m'a donné envie de me mettre au dessin comme ça, quoi.
Plus que la haute montagne, puisque c'est, il parle aussi du coup de ses histoires en tant qu'alpiniste. Donc c'est plus la partie dessin finalement qui vous a parlé.
Bah c'est le mélange des deux en fait. C'est de réussir à raconter la montagne qui m'a plu sans tomber dans un schéma classique de réchauffement climatique ou ces questions-là, parce que. Je trouve que ce qu'il a fait de très fort, c'est de ne pas résumer la montagne qu'à ça dans une bande dessinée. Et c'est ça qui m'a passionné, en fait.
Et vous, alors, quel est votre rapport à la montagne ? Vous avez grandi ici, donc vous avez grandi à Monnetier-les-Bains, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc vous avez sûrement un rapport particulier à la montagne, comme tous les enfants du territoire ?
Ouais, c'est un rapport, c'est un peu, c'est très important dans ma vie et j'ai besoin de l'avoir au quotidien. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est... que j'ai eu d'abord par les histoires, parce que bah voilà, ma mère m'a élevé avec mon frère en nous racontant des histoires de haute montagne. Et elle gardait le refuge de l'Aigle, qui est un des voire le refuge le plus mythique des écrins. Et donc, on a grandi en entendant ces récits-là. Et moi, j'ai grandi en rêvant d'aller toucher ces sommets-là, quoi.
Vous y alliez petit, au refuge ?
Non, j'allais pas petit parce que c'est vraiment un univers de haute montagne et ma mère l'a quitté quand elle a eu mon grand frère. Simplement, après, elle a eu un refuge de moyenne montagne dans lequel elle nous a élevés avec mon frère. On a passé 7 années. Donc moi, de mes 10 à mes 17 ans. Donc c'est vraiment le passage de l'enfance à l'adolescence que j'ai fait en gambadant dans la montagne. Donc ouais, c'était une enfance qui était vraiment hyper heureuse en montagne, quoi.
Ouais. Et donc, vous avez toujours envie de faire de la montagne aujourd'hui, vous continuez à pratiquer ?
C'est un peu particulier. Maintenant, j'ai laissé de côté le rêve d'être guide parce que le dessin a pris le dessus. Je continue à y aller de temps en temps. J'y vais moins souvent, mais j'y vais autrement. J'ai l'impression que j'y vais tous les jours, mais en la regardant, j'ai l'impression En fait, il y a quelques années, j'étais berger et cette expérience de vivre au ralenti au rythme d'un troupeau de brebis, ça m'a vraiment appris à voir la montagne pas dans le sens de la consommation, quoi, mais plus de la contemplation, et ce qui se marie très bien avec le dessin, en fait.
Donc vous avez changé votre rapport. Vous avez été berger, vous disiez, une saison ?
Ouais, c'est ça. J'ai été berger une saison. Quand j'ai arrêté mes études, j'étais en train de signer mon premier contrat pour faire un livre. Et j'avais besoin, ça fait quand même ça fait quand même peur quand à 19 ans on doit se lancer comme ça. Et j'avais besoin de me retrouver seul pendant 4 mois avec un troupeau pour avoir le temps de savoir quelles seraient les prochaines années de ma vie, en fait.
C'était pour dessiner ou c'était vraiment introspectif pour vous, personnellement ?
C'était assez introspectif parce que tu passes en général 8 heures avec ton troupeau, et tu es tout le temps dehors, qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il pleuve, tu es tout le temps dehors. Donc c'est extrêmement introspectif et puis l'expérience de la solitude est assez particulière quand même, surtout quand on est jeune. Quand mes potes sortaient le soir, moi je rentrais à la nuit tombée à ma cabane. Et puis, donc oui, c'est une période où j'ai continué de dessiner, mais parce que c'est quelque chose que je fais au quotidien. Mais c'était même le dessin, ça passait par l'introspection.
D'accord. Et donc, votre rapport au dessin, vous disiez que à partir de la lecture de cette BD, vous avez eu envie de vous mettre au dessin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce parcours-là d'études et finalement d'avoir quitté ses études et d'avoir été autodidacte ?
Le dessin, pour moi, ça a toujours été... ça ne m'a jamais passionné, mais par contre, j'ai toujours trouvé à travers ce médium-là un moyen de raconter des histoires. Et c'est ce que je trouvais passionnant, c'est qu'avec un crayon et une feuille blanche, on peut faire tout ce qu'on veut. Et après, je n'ai cherché que le moyen d'arriver à mes fins, c'est-à-dire de pouvoir dessiner à peu près tout ce que je voulais pour raconter des histoires. Donc, dessiner en tant que tel, ça ne me passionne pas. Mais par contre, l'utiliser pour raconter quelque chose, oui, là, j'ai trouvé une vraie passion. Et après, pour mon parcours, j'ai jamais été très talentueux, mais j'étais très laborieux. Donc, j'ai d'abord fait une prépa où j'ai eu beaucoup de modèles vivants, enfin des choses qui font progresser très vite. Ça a duré un an. Et à la fin de cette prépa, j'ai contacté Jean-Marc Rochette en lui disant que, moi aussi, j'aimerais que ça soit ma vie, quoi, que que j'avais des histoires à raconter. Et il m'a proposé qu'on se rencontre et tout est parti de... J'ai l'impression que vraiment tout est parti de cette rencontre-là, quoi. Ma vie a changé un peu du jour au lendemain quand on s'est rencontrés. Après, j'ai quand même continué pendant un an les études, mais ça n'a pas marché parce que j'avais la sensation d'apprendre plus en une journée avec Rochette qu'en un mois aux Beaux-Arts. Donc, je me suis dit, après tout, ce n'est pas un milieu qui demande un CV très, très fourni, enfin du moins pas des diplômes. Donc j'ai préféré me jeter dedans et puis on verra bien, quoi.
Donc Jean-Marc Rochette, vous l'avez contacté sans l'avoir rencontré auparavant, sans le connaître du tout.
Ouais, c'est ça. Je lui avais écrit tout bêtement un mail où je me présentais et lui très gentiment m'a proposé de le rencontrer chez lui. Et donc, il s'est passé après un mois avant que je prenne le courage d'y aller. Et pendant ce mois-là, j'ai réussi à formuler une histoire que j'avais au plus profond de moi depuis des années. Et cette histoire, je l'ai présentée quand je suis arrivé chez lui. Et il m'a dit, ça sera peut-être l'œuvre de ta vie et je vais t'aider pour que tu puisses y arriver un jour.
C'est fort.
Ouais, très.
Et ensuite, vous avez... Quand vous disiez que vous avez travaillé ensemble, vous travaillez autour de cette histoire. Ce n'était pas des cours de dessin qui vous a fourni
Ce n'était pas des cours de dessin, mais on n'a pas travaillé autour de cette histoire parce que j'étais trop jeune, trop immature, et je le suis encore d'ailleurs. Mais il savait que j'avais fait la traversée de la Meije une semaine avant de le rencontrer. Et il m'a dit, raconte-moi la traversée de la Meije en une quinzaine de pages et je vais te faire progresser autour de ça. Et en fait, ça a fait que 15 pages, mais j'ai mis quasiment un an à les faire. Et j'ai fait peut-être 7 versions, quelque chose comme ça, où à chaque fois, je lui apportais une version, il me disait tout ce qui n'allait pas, je recommençais, et ainsi de suite, jusqu'à même réapprendre à écrire, parce que j'écrivais en patte de mouche et il fallait que j'écrive en bâton. Donc, j'ai tout réappris comme ça, quoi.
C'était pas que les dessins, il y avait aussi l'histoire, l'écriture.
Ouais, voilà, parce que la BD, en fait, c'est le dessin, ce n'est que la partie visible, mais tout le reste, c'est un iceberg, quoi. Donc c'est la mise en scène, c'est la gestion de ses personnages, c'est toutes ces règles-là. En fait, c'est comme si c'était du cinéma figé, quoi.
Et aujourd'hui encore, vous travaillez avec lui ou il continue de vous accompagner dans votre progression ?
Oui, oui, il continue de suivre de très près ce que je fais parce que les Étages Éditions, c'est la maison d'édition créée par sa femme, Christine Cam. Et donc, lui continue de me suivre, surtout qu'actuellement, je travaille sur un projet assez ambitieux d'une BD que j'ai fait seul. Et j'ai l'immense luxe de pouvoir m'appuyer sur ses 40 ans de carrière. Donc, dès que je bloque, je peux toquer à sa porte et souvent, il me trouve les solutions assez rapidement.
Et ça arrive souvent ?
Que je bloque.
Et que vous ayez en tout cas à le contacter pour avoir des conseils. C'est quotidien,
c'est... Non, c'est pas quotidien, ça dépend. Il y a des séquences où tout va bien et c'est facile et tout se déroule très bien. Et puis il y a des séquences plus difficiles où là ça se freine un peu plus. Et alors c'est dans ces moments-là où je leur montre à peu près dans ma progression. Le livre fait 170 pages et je leur montre toutes les 30 planches, je leur présente. Donc, on a un peu ces rendez-vous ponctuels, là.
Et vous avez déjà publié une première BD avec le chef d'escadron du PGHM de Chamonix, enfin, l'ancien, Ligne de vie, donc publié en 2021 avec André Vianney Espinas, qui est donc publié aux étages d'édition, je vais y arriver. Pendant ce travail-là, vous étiez seul ou c'est pareil, vous avez pu être accompagné à côté ou comment ça s'est passé?
Eh ben, c'était les deux à la fois. La majeure partie du temps d'un dessinateur, oui, il s'effectue seul dans un atelier à travailler. Après, c'était quelque chose, donc, je voulais pas faire n'importe quoi. Donc, je suis allé quelques jours avec eux en immersion complète au PGHM à Chamonix, où je pouvais voir, j'étais dans le centre de régulation des secours. Et du coup, j'ai pu m'imprégner de tout l'univers qui est le secours en montagne. Parce que, alors certes, j'ai toujours vécu en montagne et le secours, je connaissais ça, mais en voyant l'hélico passer dans le ciel, et c'était tout. Alors que là, j'ai rencontré les personnes, j'ai pu les prendre en photo, j'ai pu discuter avec eux. Et le projet a pris vie à ce moment-là.
Comment vous les avez rencontrés et vous avez eu cette idée? Je ne sais pas si c'est une idée que vous avez eue ensemble déjà ou ils ont fait appel à vous?
Ils ont fait appel à moi, c'est ça. C'est André qui avait André Vianney Espinas qui avait ce projet-là. Et il cherchait un dessinateur parce qu'il ne voulait pas que ça soit que du récit et il voulait pas de photos. Donc il avait d'abord contacté Rochette parce que il a une carrière énorme et tout le monde le connaît dans ce milieu-là. Simplement lui ça l'intéressait pas et il lui a dit j'ai un jeune apprenti entre guillemets qui progresse bien et je peux te le présenter et voilà et en fait ça s'est fait comme ça et André a eu l'audace de faire confiance à un jeune de 19 ans qui n'avait jamais rien publié. Et du coup, je lui suis très reconnaissant de ça, quoi.
Et pour vous, ça a été... Que représente ce travail pour vous dans ce début de carrière?
Je suis très attaché à ce livre-là parce que justement, c'est une première expérience qui s'est très bien passée, mais en même temps qui m'a fait sauter à pieds joints dans le grand bain du milieu de l'édition, quoi. Et j'étais très jeune, donc c'est parfois c'était dur, parfois c'était facile et tout se déroulait bien. Et puis ça m'a permis de faire mon premier livre avec les étages d'édition, qui est une maison d'édition indépendante, ce à quoi je suis très attaché. D'avoir un lien avec Christine Cam, notre éditrice, qui était extraordinaire. Et puis d'avoir une expérience éditoriale qui était fascinante parce que les étages d'édition sont donc basés au village des étages dans la vallée du Vénéon. Et l'hiver, la route est bloquée par la neige. Sauf qu'on avait besoin de sortir le livre en mai. Et donc, il fallait que je livre les dessins en janvier. Et le scan était là-haut aux étages. Donc, je suis monté seul en ski de rando avec mes 50 dessins accrochés dans le dos. Et alors, quand tu traverses les couloirs d'avalanche avec tes dessins dans le dos, tu dis, OK, là, c'est pas... Tous les auteurs n'ont pas ce chemin-là à faire pour aller voir leurs éditeurs. Et ouais, ça, c'était très... Ça en fait que ça devient une aventure.
D'accord. Et donc, vous travaillez toujours avec cette maison d'édition?
Oui, c'est ça. Ouais.
Pour donc ce projet, on va y revenir à ce nouveau projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Peut-être une dernière histoire, le fait de travailler sur des histoires réelles autour de ce premier projet que représente Ligne de vie pour vous. Ça représente quoi en tant que travail et d'approche du dessin?
Ça représente déjà une grosse contrainte, c'est qu'on ne peut pas, aller n'importe où. On doit quand même coller à la réalité, mais en même temps, le dessin est une façon de s'extraire d'une certaine manière de la réalité. Ça permet de donner une version des choses qui n'est pas aussi fidèle à la réalité qu'une photographie, Donc ça permet de laisser au lecteur de certaines libertés. Et justement, on a voulu travailler ça même au point de... Dans le livre, il y a des dessins très précis d'hélicoptères, par exemple. Et à côté de ça, il y a des dessins aussi plus abstraits. Et l'enjeu, c'était d'essayer d'amener le lecteur sur un sujet très pointu, précis et assez militaire, vers quelque chose de plus artistique et plus flou.
Alors, on va maintenant passer à votre projet actuel, puisque ce livre-là, ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti, presque 3.
Trois ans même.
Ouais. Et avant cela, on écoute une musique que vous avez choisie, Alain Bachung, Immortel, qui introduit justement ce prochain projet. On y reviendra juste après.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviner que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisés, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Éric Savoldelli, dessinateur et auteur de bandes dessinées originaires des Hautes-Alpes. Alors, nous avons parlé de votre parcours, de votre premier projet de BD, et nous allons maintenant parler de vos projets actuels, voire futurs, puisque, on le disait, vous êtes en train de travailler sur une bande dessinée que vous écrivez cette fois, vous ne faites pas seulement les dessins, une sortie prévue en 2026. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, eh ben ça fait exactement 2 ans que je travaille dessus. Donc c'est une bande dessinée, un roman graphique assez volumineux, 170 pages en couleur, où j'ai écrit le scénario, fait le storyboard, donc le brouillon, et maintenant je suis en train de faire le dessin définitif avant de faire la couleur. Et ça touche à sa fin, je suis un peu dans ma dernière ligne droite, et c'est un projet, c'est tellement plus ambitieux qu'un roman illustré, enfin c'est de loin l'expérience professionnelle la plus ambitieuse que j'ai eu jusqu'à présent. Et voilà, j'ai hâte que ça existe maintenant.
Donc c'est un projet qui s'intitulera Ce qui reste.
C'est ça.
D'où le lien avec la musique dont on parlait, Alain Bachung, Immortel. Vous aviez fait ce lien quand vous m'avez envoyé la musique ?
Non, c'est marrant, je n'y avais pas pensé. Et pourtant, maintenant, ça me paraît assez évident. Mais déjà, Bachung, pour moi, c'est un artiste assez mystique qui, Immortel, s'est sorti après sa mort. Et ça ouvre cet album voilà, en disant que finalement tout ne part pas vraiment quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un lien assez évident avec mon livre, oui, qui est en partie, enfin un des thèmes du livre, c'est le deuil.
Est-ce qu'on peut avoir la thématique du livre ? Est-ce qu'on peut en parler déjà ?
Oui, bien sûr, c'est sur l'immigration italienne dans les années 40, du moins c'en est le point de départ. Et c'est l'histoire de 3 gamins qui, suite à un drame, quittent l'Italie à pied et traversent les Alpes alors qu'ils ne sont que des enfants. Et arrivent en France, découvrent le racisme et puis après s'adaptent à la vie locale. Et il y a un échange entre les mineurs, les ouvriers en forêt, les bûcherons, et tout ça dans la vallée de la Guisane avant que le ski arrive, avant l'or blanc, quoi.
Et cette thématique, elle vous est venue comment ?
Elle m'est venue parce qu'elle est personnelle et familiale, parce que je suis parti de l'histoire de mon grand-père paternel, qui lui avait eu cette histoire-là, c'est-à-dire de quitter sa famille à 14 ans pour venir en France et trouver du travail. Et voilà, moi aujourd'hui, d'italien, il ne me reste que mon nom de famille, et je pense que c'est ça le moteur de ce projet. Comment dire, quand on se lance dans une BD où on sait qu'on va y passer 2 ans et demi de sa vie, il faut être sûr du moteur, quoi. Et voilà, moi, mon moteur, c'était celui-là, c'était essayer d'aller vers cet homme que j'ai pas connu, et voilà, aller vers mon grand-père italien, quoi.
Mais c'est l'histoire de cet homme, alors ? Vous avez fait des recherches sur son histoire à lui ?
Alors oui et non, c'est de l'autofiction, donc il y a des choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Moi, je suis pas historien et je ne veux pas faire de documentaire. Ma BD est une fiction. Simplement, je pense que dans beaucoup de très bonnes fictions, beaucoup de choses sont vraies.
Donc vous avez quand même fait des recherches de sorte à ce que ce soit réaliste et que ça rende compte de ce que ça a pu être.
Oui, j'ai fait des recherches et je suis même retourné en Italie dans son village natal pour mieux me rendre compte, en fait.
C'est aussi un voyage personnel, alors, de retrouvailles avec ses ancêtres.
Ouais, exactement. Et puis derrière cet homme, il y a dans ma famille, il y a 3 générations de bûcherons, et tout le monde chez moi est bûcheron. C'est-à-dire mon père l'est, mon frère l'est aussi, et donc j'ai vraiment voulu aller vers ça, quoi. Moi qui ai pris un chemin qui est complètement différent, au final, ma première BD où j'écris, ben je vais vers eux en faisant ce livre-là, à tel point que le personnage principal a les traits de mon frère.
Et votre chemin différent est accepté en retour dans votre famille, c'est facile ?
Oui, ça a été accepté très vite, et puis ils m'ont tous soutenu très rapidement là-dedans, alors que c'est quand même une voie qui peut laisser passer les doutes et les appréhensions, parce que c'est compliqué de faire sa place, il y a très peu de demandes pour peu d'élus. Enfin voilà, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Moi, ils m'ont toujours soutenu et voilà, donc à mon tour d'aller vers eux par ce livre-là, quoi.
Et comment vous travaillez alors quand vous avez un projet comme celui-là, en plus qui est votre premier projet ?
Eh ben, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un long marathon. Donc, d'abord, il faut commencer par écrire le livre, donc même écrire la trame avant tout. Moi, je suis attaché au fait d'avoir un début, une fin avant de commencer à tout écrire. Ensuite, je mets en place des plots narratifs, ça s'appelle, c'est l'équivalent des chapitres. Puis après, j'écris mon scénario. Là, il n'y a encore aucun dessin. Après, j'écris et je dessine le storyboard. C'est tout le livre, mais avec des dessins faits à la va-vite.
Et des bulles. Enfin, on a déjà toutes les bulles.
Ouais, voilà, il y a toutes les bulles, toutes les cases, tout mon découpage. Et après, une fois que le storyboard est entre guillemets validé, donc là, c'est la partie la plus agréable parce que ça va vite. Il y a vraiment un plaisir de l'écriture, un plaisir de découvrir les premières images, même si elles sont loin de ce que ça sera à la fin. Il y a quand même le livre est en train de naître sous nos yeux. Et après, il y a une seconde partie qui est beaucoup plus laborieuse, c'est celle du dessin. Donc là, ça fait plus d'un an que je l'ai commencé. Et en fait, il faut tenir le rythme, et c'est ça qui est très, très, très compliqué. C'est que parfois, sur certaines pages, je peux passer jusqu'à 20 heures de travail. Certaines, ça va plus vite. Les plus courtes, je passe, je sais pas, 7 heures de travail dessus. Mais voilà, il faut tenir le rythme. Donc, je m'impose un nombre de pages par mois à faire, un nombre de pages par semaine à faire, un nombre de pages par jour à faire. Et donc, toutes mes journées se ressemblent. Je commence à 5 heures du matin, je dessine jusqu'à 8 heures. Ensuite, je prends une pause et puis voilà. Donc, c'est vraiment un rythme très soutenu.
Tous les matins. Et le reste de la journée, vous redessinez derrière
Ah ouais, je dessine à peu près 50 heures par semaine, donc ouais, environ 10 heures par jour.
Ah oui, d'accord. Après, vous vous inspirez parfois, vous disiez, ça vous arrive de sortir pour vous inspirer de paysages, de personnes, ou c'est vraiment quand même assez centré derrière la feuille?
Le problème de la BD, c'est que justement, on peut avoir tendance à vivre par procuration, et c'est-à-dire exprimer des émotions uniquement par les émotions qu'expriment nos personnages, et on a un peu tendance à... On peut partir dans ce truc un peu schizophrénique de ne rester que là-dedans. Donc justement, ouais, il faut sortir, sinon on s'assèche complètement et on ne peut plus rien faire derrière. Donc j'essaie de continuer d'aller en montagne, de continuer de marcher. Enfin, pour moi, ça passe beaucoup par... les solutions passent un peu par l'effort, justement, un peu de m'enlever les pensées superflues pour aller un peu à l'essentiel. Mmh. Et donc, ouais, c'est nécessaire.
Et vous disiez donc, je reviens rapidement là-dessus, que vous êtes toujours accompagné par Jean-Marc Rochette sur certains dessins. Comment on s'émancipe d'un tel personnage, notamment dans un projet là qui est le vôtre, où vous écrivez également?
C'est toute la question du moment. En plus, Jean-Marc Rochette a fini sa carrière en faisant une trilogie, et moi je commence ma carrière en faisant une trilogie, parce que ce qui reste est le premier volet d'une trilogie. Donc au final, comme jusqu'à présent, il y avait beaucoup de points communs entre nos deux parcours, ça continue un peu comme ça. Maintenant, je pense que plus jeune, j'essayais un peu d'imiter son dessin, même inconsciemment, parce que c'était le dessin qui me faisait le plus vibrer, parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup et je l'admire toujours, mais maintenant, je pense que j'arrive un peu plus à trouver ma propre voie. Et surtout, je cherche pas non plus à m'en éloigner, simplement... les choses, je trouve que les choses se font par elles-mêmes et que petit à petit, je vais vers quelque chose d'autre.
Et puis, c'est votre premier projet, il y en aura d'autres.
Oui, j'espère. Ouais.
Il y a aussi d'autres occasions d'évoluer encore. Et déjà, ça me fait penser que vos premières illustrations pour votre première BD étaient en noir et blanc. Là, vous disiez que ce sera en couleur. Ça, c'était un choix aussi, le choix du noir et blanc, le choix de la couleur. Ça vient de vous?
Moi, j'ai une facilité pour le noir et blanc d'abord, donc c'était même pas un choix, c'était un peu une évidence d'aller vers ça. Je trouve que j'ai du mal à faire vivre la couleur alors que j'arrive mieux en noir et blanc. Maintenant, pour un projet que j'espère être universel, parce que certes, c'est une histoire qui se passe en montagne, mais je pense que c'est quelque chose qui peut plaire bien ailleurs que dans le Briançonnais, quoi. Et le passage à la couleur est un peu obligatoire, sachant que l'histoire est assez sombre. Si on alourdit ça aussi avec qu'une histoire de noir et blanc, ça devient un peu trop lourd. Donc ouais, la couleur, ça ne sera pas de la couleur non plus réaliste, ça sera plus des variantes de ton.
D'accord. Sur une couleur en particulier?
Sur, sur des couleurs qui moi me semblent essentielles, c'est-à-dire du bleu, du sépia et du gris. Avec ça, on peut faire beaucoup. Ouais.
Mmh. Donc ça, c'est votre travail en tant que dessinateur de bande dessinée qui prend, vous disiez, quand même une grande part de votre temps. Mais vous travaillez aussi sur des dessins uniques. Il y a une exposition qui vient d'être ouverte à Bourdoisan. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, c'est ça. C'est le Galta, la Galerie des Trésors Alpins. Donc c'est le nouveau musée de Bourdoisan qui a ouvert ses portes le 1er juillet. Et alors, on est deux jeunes dessinateurs et dessinatrices à avoir travaillé dessus. Donc, il y a Clara Debré, qui, elle, justement, a un travail très lumineux et très coloré, et moi. Et on a ensemble un étage où on avait des thématiques un petit peu, entre guillemets, imposées, sur lesquelles on a pu travailler, faire des histoires courtes en bande dessinée, faire des illustrations. J'ai pu faire une fresque aussi qui ouvre la salle du Massif des Écrins. Et donc, j'avais fait ces dessins il y a 3 ans, ça prend vie maintenant. Et je suis vraiment reconnaissant de la mairie de Bourdoisan d'avoir déjà voulu faire travailler des jeunes personnes. Et aussi des personnes connues du coin, c'est-à-dire il y a le travail de Jean-Marc Rochette dedans, sachant que lui, il habite juste au-dessus, ça a du sens. Et voilà, et surtout au pied de stations, de grosses stations françaises, injecter beaucoup d'argent dans la rénovation d'un musée que pour la culture, je trouve que c'est vraiment remarquable.
Et comment vous vous êtes retrouvé dans cette exposition ?
Eh bien pareil, on m'y a invité. Alors maintenant, ça remonte à quelques années, donc j'arrive plus à me rappeler de comment c'était parti ce projet-là. Simplement, la directrice artistique, c'était Christine Cam, donc mon éditrice actuelle. Donc,
qui vous connaissait.
Qui me connaissait, voilà. Et donc, ça s'est fait assez naturellement.
Donc, c'était une commande, entre guillemets. On vous donnait les sujets, vous deviez réaliser les illustrations.
Ouais, c'était une commande, mais en même temps, on avait la liberté d'avoir c'était pas des sujets, c'était des thèmes dans lesquels on pouvait après s'exprimer librement, à la fois en illustration, mais aussi avec des courtes séquences de BD. Et ça, c'est chouette de sortir la BD un peu du livre et de le voir accroché au mur.
Donc ça reste aussi quand même un peu de bande dessinée.
Ouais, je m'en éloigne jamais trop.
Et les thématiques, c'était lié à la montagne ? Quelles étaient les thématiques ?
Oui, c'est lié à la montagne. C'est lié au lieu du musée. Donc Bourdoisan, entre Grenoble et les Alpes, ça passe par la montagne. Donc moi, j'ai évoqué les gardiennes de refuge, la figure des pionniers et des pionnières. Il y a aussi l'industrie, on a réussi à aborder quand même beaucoup de thèmes différents.
Est-ce que la montagne est un sujet qui vous passionne particulièrement et dans lequel vous avez envie de rester ou que vous avez envie de creuser par le dessin et la bande dessinée, ou est-ce que c'est le sujet du moment, ça peut être amené à évoluer ?
Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Actuellement, oui, c'est déjà l'univers que je connais le plus et qui me donne le plus d'idées. Donc pour le moment, mes histoires sont sur la montagne, mais j'essaie d'introduire la montagne comme un personnage, à vrai dire. Après, est-ce que ce sera le cas toute ma vie ? J'en sais rien, je pense pas.
C'est-à-dire comme un personnage ?
Je ne veux pas le voir uniquement comme un décor un peu à la Heidi où il y a des marmottes qui sifflent et les fleurs et tout ça. C'est un peu plus, ma vision de la montagne est un peu plus minérale, un peu plus sombre, un peu plus... Et c'est un personnage dans le sens où ce qu'elle va provoquer va changer les personnages et va les pousser à sortir de leur zone de confort et également à enlever toutes les formes de filtres qu'il y a entre les personnages. Et ça, ouais, ça donne une liberté qui est incroyable.
Ce sera le mot de la fin, entre guillemets. On va quand même parler de où vous trouvez bientôt et surtout, avant tout, comment vous suivre, comment suivre votre évolution. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un site web?
J'ai un site web que je n'alimente pas assez, donc oui, les réseaux sociaux, c'est plus pratique, surtout sur Instagram. Et après, surtout l'endroit où j'espère qu'on m'en trouvera le plus, c'est en librairie et surtout dans les librairies indépendantes.
Et vous faites des dédicaces, vous tournez pour présenter votre livre déjà publié, et puis on verra pour la suite.
Ouais, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc là, déjà, tout l'été va être jalonné d'une quinzaine de dates de rencontres dans les Hautes-Alpes, en Isère, un peu de partout. et donc pour signer ligne de vie. Et puis quand ce qui reste sortira, oui, là, il s'en suivra une longue période de dédicaces, je l'espère, un peu partout en France.
Et en tout cas, on peut vous retrouver donc, au festival dont on parlait au début de cette émission, dont parlait Anaïk de la librairie Voyage au bout des livres, qui sera également présente sur le site. Donc c'est un festival qui s'intitule Carnet de voyage, c'est la première édition, et vous êtes invité d'honneur.
C'est ça, j'ai la chance d'organiser deux journées d'atelier dessin au Glacier Blanc, donc un lieu qui est assez important pour moi, notamment par rapport au début de l'émission, ce que je racontais sur mes débuts en dessin ont commencé quand même là-haut, plus ou moins. Et puis voilà, c'est dans un tel univers, en étant au pied du Glacier Blanc face au Pelvoux, j'ai vraiment hâte de faire cet atelier. Et puis je vais animer une conférence qui s'appelle Voyage intérieur. Donc comme vous l'aurez compris, je passe plus de temps assis à dessiner qu'à voyager à proprement parler, mais voilà, tout ce qui nous permet de rentrer en introspection, notamment via l'écriture, je pense qu'on parlera de choses comme ça.
Parce que vous faisiez des carnets de voyage lorsque vous alliez en montagne ?
J'ai toujours un carnet sur moi, ouais. Okay. Depuis le jour où j'ai commencé à dessiner, j'ai toujours eu des carnets sur moi. Je n'écris pas sur ordinateur, j'écris toutes mes histoires dans des carnets. Donc je suis jeune, mais je fais comme un vieux peut-être. Mais ouais, j'ai un rapport au carnet qui est vraiment essentiel et c'est vraiment mon outil incontournable.
Tout à la main alors ?
Ouais.
Même là, la BD que vous êtes en train d'écrire, vous avez tout écrit
à la main.
Oui,
tout a commencé à la main. Ouais, ouais.
Et sur la bande dessinée, vous écrivez à la main, ce ne sont pas...
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai un dessin qui est dit traditionnel, donc je fais tout sur papier.
D'accord. Eh bien, donc on pourra peut-être découvrir un petit peu tout ça lors de cette conférence et pour ceux qui veulent vous rencontrer au festival. Donc, je le rappelle, c'est je m'en souviens déjà plus, les 11, 12 et 13 juillet, voilà. Donc, vendredi, samedi, dimanche, à l'Argentière, l'ABC. Et puis, on retrouve aussi vos dessins au musée Galta à Bourdoisan. Merci encore, Éric Savoldelli. Je rappelle, vous êtes dessinateur et auteur de bandes dessinées originaire des Hautes-Alpes et vous avez co-signé cette donc première BD Ligne de vie en 2021 avec André Vianney, Espinasse, Étage Édition. On attend votre prochaine BD, premier trimestre 2026.
Oui, c'est ça, premier trimestre 2026.
Bien, j'espère qu'on pourra vous accueillir à nouveau pour en parler dans le détail alors.
Merci.
Merci à vous. Et merci à toutes et tous ceux qui nous ont écoutés. Dans votre matinale demain matin avec Chris, vous retrouverez la chronique mensuelle de Nairi Boudet, sexothérapeute, qui vous parlera de la solitude. Merci encore et belle journée à vous. Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Deeper than I can.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.